La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Au micro avec vous aujourd'hui, le pasteur Lionel Fouché, pasteur en l'église Assemblée de Dieu dans le quartier Sainte-Agne à Toulouse. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série commencée la dernière fois sur les miracles de Jésus que nous trouvons dans les évangiles. Ou du moins, bien sûr, il ne sera difficile de faire le tour de tous les miracles qui sont écrits, mais nous allons en sélectionner quelques-uns. Après avoir parlé du paralytique de Bethesda, cette semaine, nous allons nous entretenir sur la guérison d'un aveugle de naissance. Comme pour le paralytique de Bethesda, nous allons voir que cette rencontre qu'il fera avec Jésus va totalement changer, bouleverser sa vie. Et au travers de cet exemple, nous pouvons aussi, quelque part, nous y retrouver. Nous trouvons le récit de cette guérison dans l'évangile selon Jean. Tout le chapitre 9 de cet évangile traite de cette guérison. Nous allons lire seulement quelques versets. Tout d'abord, au verset 1er au verset 12, je cite. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble », et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Fin de citation. Si nous avions continué notre lecture du chapitre 9, lecture d'ailleurs fort intéressante et que je vous invite à faire, nous aurions vu une certaine progression dans la perception, dans la foi de cet homme. Au départ, cet aveugle de naissance ne sait pas vraiment qui est Jésus. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Puis, après, il parle de lui comme étant le prophète. Et puis, bien sûr, après, il va avoir la pleine révélation de qui est Jésus. Par exemple, je citerai juste le verset 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Il dit « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Fin de citation. Nous avons là vraiment cet homme qui a eu cette révélation de qui est Jésus, Jésus le Fils de Dieu. Et cet homme, donc, non seulement a été guéri, mais a rencontré le Fils de Dieu, le Sauveur et le Seigneur. La vie de cet homme avait bien mal commencé, puisqu'il nous est dit qu'il était aveugle de naissance. Le quotidien de cet homme, depuis sa naissance, était donc compliqué. On a du mal à s'imaginer tout ce que cela peut représenter depuis sa naissance. Il ne pouvait pas connaître les couleurs, la beauté des paysages. Il ne pouvait pas se guider dans les rues aussi facilement que quelqu'un qui avait les yeux qui fonctionnaient bien. Donc, et puis, bien sûr, cela a mené sur lui peut-être beaucoup de regards parce que sa cécité l'a mené à mendier tout simplement pour pouvoir manger. Avec cela, porter peut-être dans sa conscience un poids de culpabilité, peut-être certains y voyaient là la conséquence peut-être d'une malédiction. Les disciples même de Jésus lui ont fait cette question, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà une question qui intéressait les disciples, mais Jésus leur répondra, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus donc va amener ses disciples à réfléchir, à concevoir autre chose que ce qu'ils pensaient eux comme étant le résultat d'une malédiction. Mais c'était afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'était l'occasion pour le Seigneur de manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur va rencontrer cet homme. Il voit en passant un homme aveugle de naissance. Avant même que cet homme puisse réaliser qui est vraiment Jésus, Jésus le voit en passant. Il n'y a point de hasard, il n'y a point ici de secret. Jésus connaît toutes les situations dans lesquelles nous pouvons les uns et les autres nous retrouver. Jésus nous voit, il nous voit et il s'arrête, il nous voit et il veut intervenir, il souhaite intervenir dans notre vie. Et cet homme va connaître une grâce particulière du Seigneur. Jésus va faire quelque chose d'inhabituel, il va cracher à terre, il va faire de la boue avec sa salive, autrement dit, il mélange ce qui est de la terre avec ce qui vient de lui, avec sa salive, et puis, donc, avec cela, il va en appliquer sur les yeux de l'aveugle. Surprenant geste de Jésus. Et il va lui dire, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Et cet homme y est allé. On voit déjà que cet homme y est allé sans savoir vraiment qui était Jésus, mais il a fait confiance dans cette parole qu'il venait de recevoir. Il fallait quand même qu'il fasse un effort. Il était aveugle, donc c'était pas si aisé que cela d'aller jusqu'au réservoir de Siloé, mais on voit qu'il a mis sa foi en action. Cet homme a fait ce que Jésus donc lui a demandé de faire. Il est allé au réservoir de Siloé et là il s'est lavé. Quel que soit en fin de compte le moyen de la grâce, quel que soit le moyen par lequel le Seigneur intervient dans notre vie, eh bien nous pouvons lui faire pleinement confiance et au bout. Il y a là une bénédiction, il y a là une grâce toute particulière. Cet homme a été guéri, et ce qui a provoqué l'étonnement de ses voisins, de ces gens qui le connaissaient. Ils le connaissaient comme étant un mendiant, et là, ils le voient, et certains même doutaient que c'était lui. Mais si, c'est lui, d'autres non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, non, mais c'est moi, hein. Et si nous avions lu un petit peu plus loin, il y a même les parents de cet homme qui vont dire « mais si c'est bien lui qui est notre fils ». Mais comment maintenant il voit, ça nous ne savons pas. Mais lui, il savait très bien ce qui s'était passé. Il savait qu'il avait rencontré Jésus, dont on commençait à entendre parler, sur tout le territoire d'Israël, et cet homme qu'on appelle Jésus l'avait guéri, et il va donc le dire. Tout d'abord, cet homme qui connaît là une grâce vraiment extraordinaire, parce que ça va non seulement lui redonner la vue, mais en plus lui redonner une position, j'allais dire, sociale, parce que à cause de sa cécité, cet homme en était rendu à mendier pour pouvoir tout simplement manger. mais là, retrouvant la vue, il va pouvoir travailler, subvenir à ses moyens. Donc on voit ici qu'il y a même une bénédiction en cascade pour cet homme. Alors tout d'abord, cet homme est béni physiquement, ses yeux vont retrouver toute leur efficacité. Et puis, cet homme va être béni socialement, puisqu'il va pouvoir maintenant ne plus mendier, il va pouvoir travailler pour subvenir à ses besoins. Et puis, bien sûr, la troisième bénédiction n'est pas la moindre, j'allais dire même la plus importante, c'est son âme. Son âme qui va s'ouvrir au Fils de Dieu, à Jésus. Donc cet homme va non seulement connaître cette grâce, comme d'autres aveugles dans les évangiles, mais en plus, il va découvrir qui est Jésus. C'est d'abord pour lui l'homme qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire, selon la renommée, il est aveugle, mais il n'est pas sourd, il a entendu parler de Jésus. D'autres aveugles aussi avaient entendu parler de Jésus, comme Bartimée, mais avait peut-être une meilleure connaissance de qui était Jésus que lui-même. Mais au fur et à mesure de la discussion, au fur et à mesure que on voit que cet homme va discuter avec non seulement ses voisins, mais aussi avec les responsables religieux de l'époque, il va dire que c'est un prophète. Au verset 17, cet homme va répondre, c'est un prophète. Donc c'est déjà, j'allais dire, un progrès dans sa connaissance, dans ce qu'il peut percevoir de Jésus. Et il est vrai aussi que pour nous-mêmes, dans notre parcours, nous grandissons dans la connaissance de Jésus, tout comme bien des personnes dans les évangiles. Tout d'abord, on peut s'approcher de lui dans la prière parce que l'on a entendu parler que Jésus fait des miracles, tout comme cette femme atteinte d'une perte de sang dans l'évangile selon Marc, qui se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et donc cette femme va être guérie, tout comme cet aveugle de naissance, et cela va, au-delà de la guérison, leur faire comprendre qui est Jésus. Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Donc on voit ici que même Job donc a grandi dans cette connaissance de Dieu. Alors cet homme en arrive maintenant à dire que c'est un prophète. C'est pas simplement un homme, voilà, dont la renommée nous parle, mais c'est un prophète. Et dire que Jésus est un prophète, c'est aussi affirmer que les paroles qui sortent de sa bouche sont les paroles de Dieu, des paroles inspirées, des paroles qui sont là pour nous encourager dans la foi. Donc c'est un prophète. Il va donc faire une étape supplémentaire dans sa perception de Jésus, et cela d'ailleurs va lui causer quelques déboires, puisque à cause de cela, et à cause du fait qu'il affirme que Jésus l'a guéri, les responsables religieux de l'époque, jaloux aussi de Jésus, vont le chasser et vont l'expulser. Et alors là, Jésus va entrer directement avec lui en discussion et lui dire, mais crois-tu au Fils de Dieu ? Jésus n'était plus à côté de lui après la guérison, donc il va le retrouver après. Crois-tu au Fils de Dieu ? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Et Jésus va lui dire, tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Et donc cet homme va reconnaître en Jésus pas simplement, j'allais dire, un homme, celui dont la renommée nous parle, pas simplement un prophète, mais bien plus que ça, il est le Fils de Dieu. Celui qui est venu pour chacun d'entre nous, celui que, justement, les prophètes avaient annoncé, celui qui était attendu, celui qui peut apporter la grâce, la bénédiction, et la guérison. Et suite à cela, Jésus va dire quelque chose qui nous interpelle encore pour nous aujourd'hui. Il dira « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et il dira encore, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Il y a une cécité bien plus terrible que cette cécité physique dont était atteinte cet homme aveugle de naissance. C'est une cécité intérieure, celle déjà de ne pas reconnaître notre propre situation, celle de ne pas reconnaître aussi l'action de Dieu dans nos vies, et celle encore de ne pas reconnaître qui est véritablement Jésus. Notre situation, la parole de Dieu nous la révèle. Et ces hommes religieux pensaient être purs, pensaient être meilleurs que les autres, pensaient à être parfaits, mais ces hommes avaient mis en oubli qu'ils n'étaient pas meilleurs que les autres et qu'eux aussi étaient des pécheurs qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Ces hommes aussi qui étaient versés dans les Écritures, ces hommes qui connaissaient les prophéties, n'avaient pas reconnu en Jésus le Messie promis. Et ceux qui le méprisaient, comme cet aveugle de naissance, eux le reconnaissaient. Et nous pourrions citer d'autres personnages des évangiles qui ont reconnu en la personne de Jésus le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Et si d'ailleurs, nous lisions juste après le chapitre 9, il y a le chapitre 10 dans l'évangile selon Jean, c'est le chapitre qu'on appelle le chapitre du bon berger, avec Jésus qui se révèle comme étant ce berger qui vient pour ses brebis, et elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Donc ici, on voit ici une suite logique avec ce que Jésus vient de nous dire. Puissions-nous reconnaître en la personne de Jésus celui qui nous montre le chemin. L'apôtre Paul fera cette prière, nous la trouvons dans l'épître aux Éphésiens, il fait cette prière pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Puissions-nous bien ouvrir les yeux de notre cœur afin de reconnaître la lumière qui est venue du ciel, puissions-nous reconnaître en Jésus la lumière du monde. L'apôtre Paul pouvait affirmer « Je sais en qui j'ai cru ». Lui aussi, l'apôtre Paul, fut un religieux extrémiste en son temps, qui ne reconnaissait pas en Jésus le Messie promis. Il était atteint d'un aveuglement spirituel, d'une cécité intérieure qui l'empêchait non seulement de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, mais qui en plus le conduisait à faire des actes de violence et de fanatisme inouï. Nous voyons aussi au travers de cet exemple que c'est tout notre être qui intéresse notre Seigneur. Ce n'est pas simplement le problème que nous avons ici-bas, problème physique, problème de maladie, voire d'handicap. Bien sûr que ça l'intéresse et qu'il veut nous bénir, bien sûr. Mais au-delà de cela, ce qui l'intéresse au plus haut point, c'est notre âme. Dieu veut nous débarrasser de notre cécité intérieure. Puissions-nous, dans la foi encore, faire comme cet homme a pu faire, alors qu'il avait un petit bout de route à faire, il est allé au réservoir de Siloé pour se laver les yeux, parce que Jésus venait d'y appliquer cette boue. Puissions-nous aussi plonger nos regards dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ainsi, nos yeux vont s'ouvrir sur Jésus le Fils de Dieu. Puissions-nous encore aujourd'hui plonger notre cœur dans cette communion avec Dieu, afin que là aussi, nos yeux s'ouvrent sur la splendeur de Jésus-Christ, et que nous puissions être émerveillés devant lui et lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait en nos vies. Et pour conclure cette émission d'aujourd'hui, nous allons écouter la chanteuse Marie Gauthier qui va nous chanter tout simplement « Je vois Jésus ». Et en effet, que nos yeux s'ouvrent sur Jésus, notre Sauveur et Seigneur.
Je vois Jésus, je vois Jésus, assis sur son trône blanc, tous les anges qui l'adorent.
Je vois Jésus, je vois Jésus, qui descend sur toute la terre, la création qui l'adore.
Roi des rois, fils de David, tu es l'agneau, le Saint de Dieu. Roi des rois, fils de David, tu es l'agneau, le Saint de Dieu.
Je vois Jésus,
je vois Jésus, qui resplendit de lumière, les rachetés qui l'adorent.
Je vois Jésus,
je vois Jésus,
je vois Jésus,
je vois Jésus,
présent au milieu de nous, son Église qui l'adore.
Roi des rois, de David, tu es l'agneau, le Saint de Dieu, roi des rois, fils de David,
tu es l'agneau,
tu es l'agneau, le Saint.